Alors, nous allons reprendre par la grâce de Dieu notre série sur l'évangile de Jean. Connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Je voulais dire, vous savez, il y a un prédicateur un jour qui a été invité dans une église. Il était un jeune pasteur et tout le monde avait hâte d'entendre son premier message. Il a prêché un message, c'était « Il faut naître de nouveau ». Le dimanche soir, il y avait une réunion à l'église, il a prêché « Il faut naître de nouveau ». Le dimanche suivant, il a prêché, il faut naître de nouveau. Alors le conseil s'est réuni en urgence, dit, notre nouveau pasteur, il semble qu'il n'a qu'un seul message. Ils ont commencé à s'affoler et ils l'ont convoqué, ils l'ont regardé droit dans les yeux, ils lui ont dit, pasteur, pourquoi est-ce que tu prêches toujours le même message? Et il les a regardés un après l'autre, il a dit, il faut naître de nouveau. Alors, si vous pensez que tous les dimanches matins, je répète le fait qu'on doit connaître Jésus-Christ et puis le faire connaître, sachez que c'est bon pour chacun de nous, connaître Jésus-Christ et le faire connaître. En fait, on a regardé les sept « Je suis » dans l'évangile de Jean. On a fait ça rapidement lors d'un message. Connaître Jésus-Christ, il a dit « Je suis le pain de vie, la lumière du monde ». La porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep. Et nous avons commencé à regarder les signes, les sept signes que Jean a choisis dans son évangile, les miracles. Le mot grec pouvant être traduit par signe. Le but de Jean, c'est qu'on reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu et qu'on croit en lui. Le but de l'évangéliste, c'est de faire connaître Jésus-Christ, de révéler qui il est, mais qu'on puisse croire en lui. Et comme je vous ai déjà mentionné quelquefois, il y a comme une tension permanente dans l'évangile de Jean. Il y a Dieu, Jésus-Christ, qui se révèle progressivement par ce qu'il dit, par ce qu'il fait. Il provoque même les gens religieux de son époque et automatiquement, il y a un résultat immédiat. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et donc, au travers de tout l'évangile de Jean, on a ce contexte de l'enseignement de Jésus, soutenu par la puissance de l'Esprit en lui pour guérir, pour sauver, pour accomplir des miracles. Et le résultat, c'est qu'il y a des gens qui croient et qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas, finalement, vont l'amener jusqu'à la mort de la croix. C'est terrible de ne pas croire. C'est quelque chose... de vivre sans Dieu, sans espoir dans le monde. Alors on a regardé qu'il y a sept signes que l'évangéliste Jean a retenus. Certains sont communs avec d'autres évangiles, d'autres non. Et en fait, on a regardé déjà le premier miracle, c'était le changement de l'eau en vin. Ensuite, la guérison du fils de l'officier. Ensuite, on a regardé la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethsaida. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble en Jean chapitre 6. Et sans plus tarder, je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles, Jean chapitre 6 et verset 1 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 15. Alors, nous avons déjà dit et mentionner que le but de l'évangile, c'est que nous puissions croire et ainsi développer notre foi, comme Jésus a voulu que ses disciples développent une foi et progressivement croient de plus en plus en lui jusqu'à sa mort, sa résurrection, et en fait après, avec l'envoi du Saint-Esprit, devenir ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous lisons, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mère de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de de Jean. Jésus dit, faites-les asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il ordonna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge afin que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Papa du ciel, merci de te glorifier. Ce matin, par ta parole, merci Jésus de cette parole divine. Merci, ô notre Père, de tous tes bienfaits, tes bontés à notre égard, et du fait que tu as envoyé ton Fils afin de te révéler à nous, afin que nous puissions croire, avoir la vie éternelle et marcher avec toi maintenant d'un même pas pour te glorifier dans l'Église de Jésus-Christ, ton peuple. Amen. Ici, on va regarder un petit peu le texte et... Voilà, j'ai pas le bon message, c'est extraordinaire ça. J'étais retourné à la piscine de Bethsaida. Alors pour ceux qui étaient là, la dernière fois, vous l'avez vu. D'accord. On va regarder un petit peu le texte ici ensemble. Le lieu se situe près de la mer de Galilée. Et si on prenait le temps de regarder différents passages, notamment à Marc chapitre 6 et Jean chapitre 3, on voit que d'après les synoptiques, Hérode a déjà fait tuer Jean-Baptiste. Et Hérode cherchait à connaître Jésus. Il pensait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité ou un prophète. Et il cherchait à voir Jésus. Il est écrit dans ce texte que Jésus était devenu célèbre. En fait, les disciples avaient prêché à travers toute la Galilée. On voit ça, je vous le lis rapidement parce que je pense que c'est bien de lire toujours dans le contexte. En Marc chapitre 6, on voit que les disciples avaient parcouru toute la Galilée. Et à partir du verset 7, il appela les douze, il était écrit, et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent, alors je saute quelques versets, ils prêchaient la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. En fait, non seulement les disciples étaient devenus populaires, mais Jésus était au summum de sa célébrité. Et c'est pour ça que les foules venaient de plus en plus se rapprocher de lui. Il est écrit qu'une grande foule le suivait. Ici, dans l'original, il y a l'idée que c'était continuellement, c'était devenu une habitude, que Jésus était continuellement suivi d'une grande foule. Donc, les disciples et Jésus se trouvaient au nord-est du lac de Tibériade. Et c'était, il nous est écrit en Matthieu, chapitre 14, je vous lis la correspondance du texte, c'était un lieu désert, où il n'y avait vraisemblablement donc personne. C'était au printemps, en Jean chapitre 6, on voit qu'il y avait quand même de l'herbe. Mais il est écrit à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. C'était en fait un an avant la crucifixion, c'était une sorte de Pâques, une sorte de Pâques avant la Pâque. C'était la Pâques de Jésus, la Pâques des disciples, la Pâques de ce peuple qui allait devenir un nouveau peuple pour ceux qui allaient croire. Ici, Jésus voit la foule. Il dit à Philippe en particulier, mais comment on va nourrir ces gens-là? Mais dans l'évangile de Matthieu, et je vous le lis, il est écrit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dire, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de regarder un besoin, puis de se dire, comment on va faire? On n'a pas les moyens d'y répondre. Seigneur, écoute, désolé, mais là, on ne peut rien. Mais quand vous dites à Dieu, on ne peut rien, c'est manquer de foi, non, quelque part. Et Dieu, parfois, nous place devant des situations où les besoins sont même tellement immense qu'il nous dépasse totalement. Et pourtant, Dieu dit dans Matthieu 14, « Donnez-leur vous-même à manger. » Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire ici? Il est en train de communiquer un défi de ses disciples, de croire que Dieu peut tout, qu'il est le Dieu de l'impossible. Il lance un défi à ses disciples. Et est-ce que ce n'est pas notre vie quotidienne, quelque part, que Dieu nous place dans des situations où on ne peut rien, si ce n'est de commencer à croire en lui? Mais on dit, Seigneur, bon, ça me dépasse et je vais faire autre chose. Mais Dieu dit, non, j'ai une réponse. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a des milliers de gens qui se perdent autour de nous. Et c'est vrai que nous ne savons pas toujours comment les aborder, comment leur apporter la nourriture spirituelle. Et Jésus nous dit qu'il va nous rendre capables de nous donner la nourriture qui convient à ce monde perdu. Nous n'avons pas la sagesse pour gagner les âmes. Pourtant, la Bible dit « le sage s'empare des âmes ». Mais nous pouvons demander à Dieu de nous donner cette sagesse pour gagner des âmes. Nous ne pouvons gagner aucune âme. Nous ne pouvons nourrir aucune personne spirituellement si ce n'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'être poussé par Jésus-Christ pour apporter la nourriture qui convient. Et demander à Dieu cette sagesse. Mais par nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Mais Jésus teste la foi des disciples. Il teste particulièrement Philippe et il lui dit ceci. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Où achèterons-nous des pains ?» C'est la solution qui semble maintenant plus logique. « Où achèterons-nous des pains ?» Et certainement que les disciples savaient à peu près ce qui était dans la bourse de cette petite communauté. Et alors Philippe dit tout simplement, « Mais écoute, Seigneur, il faudrait plus de 100 deniers. » Or, le denier correspondait à un jour de travail. Donc, il fallait penser à une grande quantité. En fait, il fallait beaucoup pour répondre aux besoins. Encore là, l'insuffisance totale des disciples. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir éprouvé par le Seigneur? Parce qu'au verset 6, il est écrit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. J'aime bien un petit... C'est à la fois... c'est fait plein de délicatesse et puis un peu d'humour. Le Seigneur a le droit de nous éprouver. Est-ce que vous vous rebellez? Est-ce qu'on se rebelle? Est-ce que le Seigneur nous... Je ne dis pas qu'il nous tente pour aller dans le péché, mais éprouver, tester notre foi. Est-ce que ça vous arrive de dire, mais Seigneur, écoute, là, quand même... Et pourtant, le Seigneur a le droit, si nous faisons partie de ses disciples, d'être à l'école de ses disciples, de nous tester. On a des petits devoirs de temps en temps. Vous savez, on n'aime pas trop avoir des devoirs. Il faut des examens. C'est exigeant. Il faut réviser. Il faut avoir une bonne note. Il faut passer. Et il y a les tests du Seigneur. Et parfois, il éprouve ses disciples. Et là, il éprouve Philippe en particulier. Ça me fait penser quand Dieu a dit à Abraham, l'homme de l'alliance, de la promesse, qu'il aurait un fils qui régnerait. Il dit, va, prends ton fils et sacrifie-le. Et Abraham s'est levé de bon matin. Il nous est écrit, moi j'aurais plutôt eu tendance à tourner dans mon lit, à trouver 1000 excuses en tout cas. Peut-être j'aurais pas dormi la nuit, mais trouver 1000 excuses pour faire autre chose que d'aller tuer mon propre fils. Mais Abraham a cru à l'ordre de Dieu. Et même il nous est écrit en hébreu dans l'explication qu'il a cru que ça allait en quelque sorte par ce sacrifice recouvrir même Isaac d'une résurrection. Ça semble incroyable. Abraham a cru parce qu'il était poussé par Dieu et il était prêt, vous savez, à sacrifier Isaac, son fils unique. Dieu, parfois, peut nous demander des choses extraordinaires. Je pense à Corinne Ten Boom et sa sœur qui sont allées dans les camps de concentration, qui priaient Dieu dans des situations terribles. Elles se demandaient pourquoi, Seigneur, jusqu'à ce qu'elles découvrent par l'amour de Christ, d'amener des gens au Seigneur dans ces camps terribles. Et sa sœur est décédée, elle est devenue une prédicatrice, un témoignage tellement vivant. Elle a eu des conférences avec des milliers de gens pour parler du pardon de Dieu. Dans cette épreuve si terrible, dans ces camps de concentration testés par Dieu, elle a su aimer même jusqu'à ses bourreaux. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne à la fin d'une conférence et qui lui dise, vous savez, j'étais un de ceux-là, est-ce que vous me pardonnez? Le test de la foi, savoir pardonner, savoir aimer, savoir vivre par la foi dans les choses matérielles, spirituelles et même physiques. Alors Dieu permet les tests de la foi. D'ailleurs, c'est tout à fait biblique. Hein? C'est écrit, je vous le lis, dans Jacques. Dans Jacques, voilà ce que dit cet épître. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, les deux, dans le texte ici, en tout cas dans ma traduction ici, le mot épreuve est le même mot, mais dans le grec, il y a deux mots. En tout cas, les diverses épreuves, on comprend, c'est les circonstances, les épreuves physiques, matérielles ou même spirituelles. Et l'épreuve de votre foi, c'est plutôt l'idée du test. On voit au travers de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, que Dieu teste la foi de ses enfants. En fait, Dieu est glorifié lorsque nous croyons en lui. Et si ma mémoire est bonne, en 1 Pierre 1,7, il est écrit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Philippe est éprouvé par le Seigneur et le Seigneur a fait exprès de l'éprouver. Est-ce que nous acceptons les épreuves du Seigneur? Est-ce que nous acceptons que notre foi soit éprouvée? Et c'est parfois dans des moments inattendus où quelque part tout semble aller bien et puis tout d'un coup il arrive quelque chose et dit « Oh Seigneur, là !» Et encore c'est le test de la foi. Au moment où on pense reposer et trouver le repos total, et c'est vrai que dans la foi il y a un repos, eh bien le Seigneur permet encore une autre épreuve afin de nous montrer que lui est là et qu'il veut nous faire progresser dans notre foi et notre attachement envers lui. Alors Philippe répond avec ce qu'il comprend. Mais voilà, un denier, salaire d'un jour, 200 deniers, 8 mois de salaire, eh bien, nous ne les avons pas. Alors lui, il pense que c'est le problème, un manque d'argent. Ça vous a jamais arrivé dans l'épreuve, dit, le problème, c'est un manque d'argent. Si on avait plus d'argent, l'Église grandirait. Si on avait plus de publicité, plus de Nouveau Testament, merci Seigneur, on peut donner des Bibles, c'est merveilleux. Mais vous savez, à l'époque des apôtres et des disciples, ils n'avaient pas d'imprimerie, ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas la radio, et pourtant le monde fut conquis par leur foi. Ce n'était pas un problème de moyens, c'était un problème de foi et de consécration, d'être prêt à partir par la foi. On dit que des gens partaient, des missionnaires en Chine, du temps du Tsun Taylor, avaient leur cercueil comme valise, étaient prêts à mourir, à être enterrés là, mais au moins, ça évitait de prendre une valise. Ils partaient par la foi. Certains sont appelés peut-être à ça, mais l'idée, en tout cas, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des besoins face à nous qui sont énormes. Et nous avons peut-être des calculs et des solutions, et nous sommes humains. Ce n'est pas anormal de réfléchir et de penser, voilà la solution. Mais Jésus a une solution. Je me souviens d'un témoignage de notre cher frère Alain Choiquier, qui était évangéliste, feu Alain Choiquier, notre cher frère qui me racontait un jour qu'il priait à table, qu'il remerciait le Seigneur pour le repas. Il n'y avait rien sur la table, absolument rien. Et sa voisine descend, ils habitaient dans un immeuble, et dit, voilà, écoutez, monsieur Choiquier, madame Choiquier, je suis désolé, j'ai fait une telle grande quantité de soupe, j'ai peur de gaspiller cela, est-ce que je peux vous en donner? Elle a dit, ils ont, comme c'était des gens qu'ils connaissaient, mais pas si bien que ça, ils n'ont pas voulu parler de leur pauvreté à ce moment-là. Et ils ont reçu la soupe avec beaucoup de joie, remerciement, puis ils ont loué le Seigneur. George Müller louait le Seigneur. Un jour, alors qu'il nourrissait des centaines d'orphelins, il a loué le Seigneur pour le petit déjeuner qu'ils allaient avoir. Il n'y avait rien dans leur bol. Et vous savez, peut-être l'histoire... Le livreur de lait a eu sa charrette qui s'est brisée, la roue qui s'est brisée, puis il est venu à l'orphelinat et a dit « Allez, tout ce lait, je ne sais pas quoi en faire, ça va périr, est-ce que je peux vous le donner ?» Évidemment, un orphelinat, il y a toujours place pour nourrir des enfants. Ainsi, Dieu parfois teste les enfants, ses enfants, vivent par la foi. Je me souviens, j'ai pensé à ces deux anecdotes pour nous faire réfléchir, mais je me souviens, par la grâce de Dieu, quand notre église à Québec a décidé de construire une église, un plus grand bâtiment, mais c'était tout par la foi. Nous avions pratiquement rien et Dieu a pourvu de façon extraordinaire. J'ai bien aimé l'illustration un jour d'un ami missionnaire qui venait des États-Unis, qui était au Québec. Il disait, Michel, la volonté de Dieu, c'est comme conduire un gros camion, mais sans... ça y est, j'ai oublié. Je connais le nom en anglais, power steering, sans la direction assistée, non? D'accord. Il dit, il faut avancer pour qu'on puisse tourner le volant. Et ça m'a toujours, c'est toujours resté dans mon esprit. Quand on est dans la volonté de Dieu, et oui, on avance, et là, on peut voir la direction de Dieu. Mais si on fait du surplace et on attend, on peut pas, on ne sait pas dans quelle direction aller, parce que c'est impossible de tourner le volant. Dieu fait des miracles. Le premier pas de la foi dans nos vies peut engendrer beaucoup d'autres pas de la foi. Et cette église ici dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir, il y a un bel éclairage, on a tout ce qu'il faut, ou presque. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont travaillé fort ici? Tout était brisé ici, depuis le coin là, c'était des baies vitrées de 3,20 m de haut, tout était brisé jusque dans cet angle ici. On a dû mettre des briques, des maçonneries, des fenêtres, tout par la foi. On avait des, merci Seigneur, quelques équipes qui venaient. Et on se demandait, mais comment on va faire pour payer les matériaux quand l'équipe suivante va venir? Ben, des fois, l'équipe qui venait laissait un don. Et avec le don de l'équipe, on pouvait construire et acheter les matériaux pour l'équipe B, et ainsi de suite. Ce petit bâtiment ici, c'est un miracle de Dieu pour une petite église qui a démarré il y a quelques années. Dieu est prêt à pourvoir, c'est le pas de la foi. J'aimerais juste nous laisser quelques secondes pour réfléchir. Y a-t-il un domaine dans votre vie où dites oui, là, là c'est une épreuve, où c'est vraiment difficile, c'est un désert. Nourrir 5000 personnes dans le désert, il faut le faire quand même. Hein? Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas une solution? Et des fois on ne la voit pas la solution, on s'agite. Ça vous arrive, j'espère que je ne suis pas le seul, hein? Rassurez-moi, ça vous arrive jamais de vous agiter, de vous inquiéter, de mal dormir la nuit, de penser, oh là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis tout d'un coup, Dieu répond. Parfois, au fond de notre détresse, comme Élie dans sa dépression, Dieu l'a visité, il a entendu le vent, et puis il a entendu la voix de Dieu lui parler dans le calme et la tranquillité, dans la quiétude. Dieu répond à nos grands problèmes. Ce n'est pas un manque de moyens. Dieu est tout puissant. Notre besoin, c'est d'avoir la foi. Alors le constat des disciples, ben, renvoie la foule. Le constat de Philippe, un petit peu plus éprouvé, qui était peut-être plus calculateur que les autres, irrationnel, on manque d'argent. Et puis il y en a un, André, il a l'air anodin dans sa réflexion. Il arrive et dit, ben, écoute Seigneur, frère de Simon-Pierre, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Je ne sais pas dans quel sens prendre cette réflexion. Il dit, écoute, j'ai fait l'évaluation, il y a 5000 personnes ici, sans compter les femmes et les enfants, et de tout ce qu'on possède, nous les disciples, et de toute cette foule, j'ai juste trouvé un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Je crois qu'il était en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, écoute là, tu nous demandes de les nourrir, mais regarde ce qu'on a, qu'est-ce que tu vas faire? Ou qu'est-ce qu'on peut faire plutôt? Je pense qu'encore il n'avait pas les yeux fixés sur le Seigneur. Alors des fois, le Seigneur nous demande de lui donner le peu que l'on possède. C'est ce que moi je vais retenir avec ce petit garçon. Le petit garçon, il avait 5 pains et 2 poissons. C'était bien, il avait son goûter, son repas, je ne sais pas. Ses parents avaient bien pris soin de lui. Il était content. Et puis l'autre dit, regarde. Et puis Jésus le fait venir, il prend ses 5 pains et 2 poissons. Attends, c'est tout ce que je possède. Ouais. Mais moi je crois qu'il y a une application là. C'est que le peu que nous avons, si nous sommes prêts à le donner, Dieu est prêt à le multiplier. Je vous invite à tourner à 2 Rois, chapitre 4. Là, vous devez tourner dans vos Bibles. Quelqu'un a dit que le plus beau bruit, c'est d'entendre les feuilles de la Bible tourner. Bon, peut-être. Alors, 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. C'est une histoire quand même qui est assez extraordinaire. Alors, à l'école des prophètes, d'ailleurs, on parlait au cours de théologie hier matin à propos d'un besoin de pouvoir prendre du recul, se mettre à part, prendre plus de temps dans les Écritures. Ben, dans l'Ancien Testament, il y avait l'école des prophètes, il y avait 100 personnes là qui étaient en train d'apprendre à vivre par la foi. Un homme arriva, verset 42, donc 2 Rois chapitre 4, de Baal Shelisha. Peut-être que ce n'est pas la bonne prononciation, je ne sais pas. Il apporta du pain des prémices de l'homme de Dieu, 20 pains d'orge. Alors, je souligne que le pain d'orge, c'était le pain du pauvre à l'époque. Hein, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Quelle autorité, Élie! Il a juste un peu quelques pains d'orge et quelques épis. Il y a 100 personnes qui disent, ben écoute, donne-la, rassasie ces gens-là. Waouh! Le gars, il a dû être... Il a dit, oui, c'est mon maître, bon d'accord, je suis à l'école des prophètes, je vais essayer de faire ce qu'il dit, il me dit. Son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, quelle fermeté dans sa foi, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on aura de reste. Quelle similitude avec Jean chapitre 6. Et vous vous souvenez, il y en avait un autre, excusez, ça me vient à l'esprit, quand Moïse était dans le désert, qu'est-ce qu'il avait à nourrir, à donner à tout ce peuple? Rien. Vous avez tout un peuple, des centaines de milliers de gens, et puis ils murmurent, évidemment, ils ne sont pas contents, puis vous n'avez rien à leur donner. Et Dieu a suscité la manne dans le désert, un autre miracle. Et Jésus est là, devant le même défi, devant cette foule. Ils sont dans un désert et puis ils n'ont rien à manger. J'aimerais vous dire ceci, est-ce que nous sommes prêts à perdre ce que nous estimons être notre tout, qui est devant Dieu rien, afin de gagner Christ? C'est l'équation rationnelle que tout chrétien devrait faire. Perdre en Christ, c'est toujours gagner, mais vouloir retenir, c'est certainement perdre. C'est toujours bon de se confier en Dieu et de livrer ce qui nous semble être le tout qu'on possède, parce que Dieu peut en faire des miracles. Je sais que j'ai déjà donné cette anecdote, mais elle est tellement précieuse, je vous la redonne. Hudson Taylor se promenait et il visitait les malades, vous savez, il faisait des études de médecine, il lui restait rien dans la poche, si ce n'est une pièce, qui considérait toute sa fortune pour payer ses études, pour manger, pour finir les mois ou les semaines, je ne sais pas. Il visite un homme dont la femme était gravement malade et qui le supplie de l'aider. Il fallait des médicaments, il fallait payer. Et puis il a mis la main dans la poche, il a tourné la pièce dans sa poche. Et puis le Seigneur lui a dit, mais Hudson Taylor, tu as quelque chose dans la poche? Il a dit, oui, c'est vrai, mais c'est tout ce que je possède. Il a dit, écoute, voilà, le monsieur était en train de le supplier, soigner ma femme. Et il a donné la pièce. Et qu'est-ce qui est devenu de Saint Taylor un jour? Un homme de Dieu qui a prié pour que Dieu envoie des missionnaires en Chine. 10 une année, une autre année, il a prié que Dieu envoie 100 missionnaires. Je vous mets au défi d'une mission aujourd'hui, toute puissante, qu'elle soit de n'importe quel pays, riche ou pas riche, qui envoie à une seule année 100 missionnaires, des gens capables de partir par la foi. Tout donner un jour, ça veut dire faire confiance en Dieu. Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout, disait Spurgeon. Qu'est-ce qu'on retient que Dieu pourrait pourtant multiplier pour le bien des autres? On a d'abord une richesse spirituelle. La mer morte semble avoir de grandes richesses et pourtant elle ne sert pas à grand-chose. Le lac de Tibériade est riche en poissons, on fait des pêches miraculeuses, hein, c'est formidable. Il semble que la mer morte a des milliards et des milliards de minéraux qui sont inexploités. Ça ressemble aux chrétiens qui toujours reçoivent. La mer morte est en dessous, vous savez, de la mer de Galilée, le Jourdain descend, et la mer morte reçoit toujours l'eau. Elle a un taux de salinité terrible, mais on peut, à part des touristes qui... comme un jour l'ont visité, on se met debout dans l'eau, on reste droit tellement il y a du sel, mais ça ne sert pas à grand chose. Et le chrétien, il a des richesses enfouies parfois, qui peut-être lui semblent rien. Vous avez une Bible, vous vous rendez compte, la parole de Dieu, au travers des siècles a résisté, une parole si riche, est-ce que vous la lisez, est-ce que vous la multipliez autour de vous pour l'enseigner, pour faire connaître le salut de Jésus-Christ? Nous avons des richesses, frères et sœurs. Et un jour, on devra rendre compte à Dieu de nos richesses. Qu'est-ce qu'on en aura fait, même si à nos yeux, c'est tout petit. Mais j'aime un verset qui m'encourage tellement, que Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Je trouve que c'est un bon verset pour notre Église, hein, que Dieu suscite cette puissance de la foi. Donnez, donnez et croyez qu'il va le faire. J'aimerais vous dire, il semble, d'après l'étude que j'ai faite chronologique, là, de Matthieu 14, Marc 6, Luc 20, Luc 9, voilà un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Tôt dans la journée, Jésus demande aux disciples, comment vont-ils faire pour acheter du pain et pour nourrir cette foule? Certainement, les disciples se sont regardés, je pense qu'il y a eu quelques heures de discussion, et puis la seule alternative pour les disciples, c'était, ben, Seigneur, renvoie la foule. Lui, Philippe, pense que l'achat du pain serait possible, mais c'est impossible parce qu'on manque d'argent, manque de moyens. Puis lui, André, nous présente comme petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Vous savez, tout ce cheminement montre que Jésus savait enseigner ses disciples. Qu'est-ce qu'il va faire en faisant le miracle? Il va leur enseigner que lui est tout suffisant, mais que nous sommes bien insuffisants dans tous les domaines, en fait. Nous sommes insuffisants même à pourvoir nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Vous avez déjà traversé un désert où vous n'aviez pas de quoi manger. et Dieu a suscité la nourriture. Vous savez ce que c'est alors que Dieu nourrit les oiseaux du ciel? Matthieu 6. Si vous n'avez jamais été dans un désert matériel au point de ne pas avoir de nourriture, vous ne savez pas ce que c'est que de vous réjouir chaque jour, de remercier le Seigneur pour la nourriture qui est dans votre assiette. Peut-être c'est même un dû avec toute la richesse matérielle et les variétés de cuisine qu'on a. Mais savez-vous que manger tous les jours, c'est une grâce de Dieu? Parce qu'il y a des pays au monde où les gens meurent de faim, et c'est même la majorité du monde. Nous oublions cela, que boire, manger, c'est une grâce de Dieu. C'est la toute suffisance de Dieu qui nous est présentée, je pense, là, à retenir. Dieu est capable de pourvoir nos besoins, même devant des situations qui nous semblent impossibles. Écoutez, croyez en Dieu. 5 pains, 2 poissons, quelle est votre épreuve? Est-ce que Dieu qui a nourri 5000 personnes ne peut pas vous aider à traverser votre épreuve et peut-être aboutir à un miracle qui va vous faire le glorifier? C'est tellement précieux de croire en Jésus-Christ. Et Jésus, lui, voilà sa réponse à partir du verset 10. Il fait asseoir les gens. C'est un bon berger. Il les emmène, et j'ai pensé, dans les verts pâturages. Il y a un désert quelque part, en tout cas, ils ne peuvent plus manger, ils ont été enseignés, ils ont été guéris. Ils sont là, ils regardent Jésus. Et puis ils sont affamés, on ne peut pas prêcher à une foule et puis les laisser affamés toute la journée. Il les fait asseoir. Il a une solution, comme un bon berger qui prend soin de ses brebis. 5000 hommes, 10 000 personnes au moins, pour inclure femmes et enfants et peut-être plus. Et Jésus va faire le miracle. Et au fur et à mesure qu'il distribue ou que les disciples distribuent, il y a toujours continuité d'abondance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On est rempli du Saint-Esprit. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous doutez peut-être que le Saint-Esprit ne peut plus vous remplir, vous donner la paix et la joie. On peut toujours aller à la source. La source ne tarit jamais. Il distribue, il donne, mais ça ne s'épuise jamais. Moi, je suis content d'avoir un Dieu comme ça. Il n'est jamais fatigué. Quand je suis fatigué, moi, ça prend du temps à me renouveler. Je le prie, certes, il aide, mais ça prend un certain temps ou un miracle. Mais lui, il ne se fatigue jamais. Il a toute la provision du monde. Il tient le monde dans sa main. Des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies. Et nous, il nous aime. Il prend soin de nous. Il est capable de tout faire dans nos vies. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Et en fait, il fait ce miracle et puis il dit de tout ramasser les morceaux afin que rien ne se perde. Alors, ils ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux. Alors, le miracle rassasie toute la foule. Les restes symbolisent certainement l'abondance de Jésus et ça ne doit pas être gaspillé. Dieu veut apprendre à ses disciples que Dieu peut donner de façon abondante. Et même il y a des restes, mais il faut les ramasser. Je ne sais pas si ces restes étaient pour les disciples, je me suis posé la question. Ou alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Hé, toi là, le jeune homme qui a donné 5 pains et 2 poissons, regarde, on te donne 12 paniers. Peut-être qu'ils ont fait ça, peut-être qu'ils ont dit, oh, nous on a besoin là, quand même. Peut-être que Dieu a permis que face à rien, tout d'un coup les disciples se retrouvent dans l'abondance, 12 paniers. Non seulement Jésus a nourri la foule, mais là maintenant les disciples, ça y est, ils ont 12 paniers, ils peuvent se nourrir quelques jours. Ou alors ils ont considéré les pauvres de la foule, je ne sais pas, mais Dieu voulait que rien se perde. Vous savez, parfois, nous sommes tellement bénis que nous ne savons plus compter les bienfaits de Dieu. Et nous devons apprendre à les compter. Le mardi soir, c'est plus le vendredi, mercredi, c'est mardi soir, on est quelques-uns ici à prier dans cette pièce ici, la chambre haute, hein, où ici on fait un grand cercle et tous les semaines on voit les miracles de Dieu. Venez prier. Vous avez un sujet de prière, osez le partager. Au moins, on va mettre une boîte quelque part, on va mettre sujet de prière où les gens de l'église vont pouvoir mettre leur sujet de prière. Ils vont voir que Dieu répond à la prière. Hein? Mon épouse Louise a un site SOS Prière. Et vous qui êtes des partenaires, il y a 30 de partenaires qui prient, ici et là, il y a des miracles qui se font. Et toute la gloire vient à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on perde ce qu'il nous donne comme bénédiction, qu'on sache les compter. Les compter précieusement, qu'on les marque. Prenez l'habitude de prendre un carnet et de décrire les bénédictions de Dieu pour ne pas oublier que Dieu vous bénit dans les moments difficiles ou les moments où Satan nous fait croire que Dieu nous abandonne, que Dieu ne nous aime plus. Pensez à compter les bienfaits de Dieu. J'ai relevé 2 versets qui sont dans la même pensée. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens qui ont vu le miracle? Parce que c'est un miracle, le signe, vous vous souvenez? Je vous ai déjà mentionné ça, le mot grec, et on peut le traduire par signe, et le but du signe, ce n'est pas de regarder particulièrement au miracle lui-même, mais la signification du miracle. D'ailleurs, Jean est le seul dans l'évangile, de son évangile, qui explique après le miracle au travers de tout l'enseignement de Jésus sur le pain. Il devient le pain de vie. Vous connaissez certainement Jean chapitre 6. Alors, la première conséquence qui fait que Jésus se révèle, et donc qui se fait connaître à la foule du moins, c'est qu'ils reconnaissent que Jésus est le prophète. En Deutéronome 18,15, celui qui devait venir, le prophète, le peuple savait que le prophète était le Messie, Meshayak, Christos en grec, dans le mot Christ. Mais dans leur esprit, le prophète à venir était, il faisait une analogie avec Moïse, qui est venu délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et dans leur esprit, si Jésus était le Messie, il devait les délivrer de la botte, n'est-ce pas, romaine, et de la puissance du monde romain sur eux. Jésus devait être un roi libérateur de la puissance romaine, mais peut-être pas le roi libérateur de la vie spirituelle. En fait, ils n'avaient pas encore compris le vrai sens du miracle, jusqu'à ce que Jésus leur explique plus tard dans le texte, vous le lirez, Jean chapitre 6, que nous aurons l'occasion d'ailleurs de voir en début décembre. En fait, Jésus est au maximum de sa célébrité, maximum de sa popularité, et là, il pourrait se faire élire au roi. Le chemin, pour lui, de la facilité à ce moment-là, parce que ce serait différent du chemin du calvaire. Il aurait pu devenir le roi d'Israël à l'instant, être proclamé roi d'Israël, utiliser sa puissance pour balayer les Romains, délivrer le peuple et être tellement adulé. Mais ce n'était pas le vrai sens de ce miracle, parce qu'il allait être le pain de vie pour nourrir. Sa chair et son sang devaient être brisés et devaient couler pour que nous ayons la vie éternelle et le pain de vie. Ainsi, Jésus, face au miracle, dit « Non, je ne serai pas le roi que vous cherchez, je veux être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je ne me détournerai pas de ce chemin de la croix pour aller jusqu'à mourir pour vous, être séparé de Dieu mon Père. » Qu'est-ce que nous avons appris? Nous terminons. Qu'est-ce que nous avons appris de Jésus? Nous avons appris de Jésus dans ce texte. Vous savez, dans chaque étude qu'on va voir au groupe de maison, je vous invite à vous inscrire, bien-aimés, pour étudier l'évangile de Jean. On va apprendre qui est Jésus, puis à chaque passage, se réfléchir comment est-ce qu'on peut transmettre ce qu'on a appris du passage. Qu'est-ce que nous avons appris de Jésus? Jésus opérait de nombreux miracles. Est-ce que Jésus fait des miracles aujourd'hui? Ben oui. Jésus était très populaire. Vous savez, on a tendance parfois à mépriser Jésus, mais Jésus était très populaire. Jésus teste et prouve la foi de ses disciples, mais il connaît l'avenir. Il savait ce qu'il allait faire, même s'il éprouvait Philippe, il savait qu'il avait la solution et qu'il allait le faire de telle ou telle façon. J'ai marqué, Jésus prend soin des brebis, il rassasie la foule, il peut tout, il est El Shaddai, on l'a chanté. Jésus n'aime pas le gaspillage, c'est un bon message ça. Dans nos sociétés, on dit que nos poubelles du monde occidental nourriraient le monde affamé. Jésus pourvoit abondamment aux besoins des hommes, au-delà même de leurs besoins, parce qu'il veut montrer qu'il est un Dieu qui donne avec abondance. Et puis Jésus était soumis au plan de Dieu pour sa vie, pour aller jusqu'à la croix. Il refusa d'être proclamé roi. Ainsi, pourquoi croire en Jésus? Parce qu'il prend soin de ceux qui le suivent. Et puis Jésus, à partir de rien, peut tout faire dans nos vies. Alors en conclusion, on a le choix de croire ou de ne pas croire. Et je vous invite à tourner ou à regarder juste un petit peu plus loin. On termine avec cela, Jean chapitre 6, versets 66 et 68. Il est écrit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. On peut croire en Jésus parce qu'il est le seul qui donne la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Juste pour nous lancer un défi quand même, parce que c'est toujours le danger d'écouter et puis est-ce qu'on va mettre en pratique. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie, matériel, physique, spirituel, qui semble en impasse? Vous évaluez. Il faudrait quitter la situation, Seigneur, ce serait la meilleure chose. Regarde, je n'ai pas les moyens ou j'ai très peu de moyens. Dieu peut faire des choses miraculeuses dans votre vie. Vous devez le croire. Vous tenir à ses pieds et voir comment il va agir. Vous êtes dans une situation difficile, il est capable de faire toute une différence. Et puis comme j'ai déjà mentionné, le peu que nous avons, osons le lui présenter, parce que lui peut faire des miracles quand on lui donne le peu que nous sommes. Ça doit être tout, mais le peu que nous sommes, Dieu peut le multiplier à sa gloire, afin que nous voyons ses miracles, que nous puissions croire en lui, l'aimer, le chérir, en attendant qu'il vienne nous chercher. Et ses proches, n'est-ce pas? Prions. Notre Père Céleste, merci de ta présence ce matin. Et je te prie de nous aider les uns les autres à te glorifier. Que tu te glorifies en nous. Nous-mêmes, on n'est même pas capables, Seigneur. Mais tu es le pain de vie et nous voulons manger dans ce pain, vivre de cette vie, afin de te glorifier, toi, Seigneur. Je te prie, Père, si ce matin, je crois que c'est nous tous d'ailleurs, nous avons tous des épreuves, tous des impasses, tous des difficultés. Et là où nous avons peut-être douté, pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous de croire, de ne pas douter de toi. Parce que, Seigneur, tu es El Shaddai, le bon berger, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Seigneur. Amen.